Deuxième partie de ce 50e épisode de La Terre à Boire. Nous sommes toujours au Trinque Fougas, au sud, à Montpellier. Et on est toujours très très bien autour de la table avec Florence, notre Women Do Wine.
Bonjour.
Avec Patrice, notre passionné et passionnant.
Notre Men Do Wine. Enfin, Men Do Pas Wine, mais aime bien le wine.
Men Talk About Wine.
Exactement.
Avec Maxime de Tire-Bouchon.
Men Drink toujours, Wine.
Men Drink Wine et qui pousse aussi les boutons et ça rend bien service à la console. Et donc on poursuit un peu ce numéro double avec deux femmes du vin. Patricia Hubček, bonjour.
Bonjour Romain.
Et Audrey Martinez, bonjour.
Bonjour.
Alors, le programme, il est un peu écrit d'avance, c'est que vous faites tellement de trucs toutes les deux là, qu'on va juste passer en revue déjà tous les métiers que vous pouvez avoir. Et ça va nous occuper, je pense. Et on a aussi prévu de boire des vins, de déguster les vins que vous nous avez apportés.
Qui sont plutôt en Languedoc. Que c'est quand même le thème de l'émission.
Je te confirme, Patrice, nous sommes dans Montpellier.
Et on peut recentrer un petit peu le débat.
Toujours dans l'appellation Languedoc. Patricia, toi, tu travailles surtout dans la communication, ici avec le Trinque Fougas notamment, tu t'occupes de la communication.
Voilà.
On peut dire que c'est un peu grâce à toi et par le fait qu'on est rentré en contact, qu'on est là.
On s'est connus par les réseaux sociaux,
aujourd'hui,
on peut le dire.
Ouais,
il y a aussi du bon dans les réseaux sociaux.
Il y a du bon et dans le vin, il y a pas mal de gens qui sont actifs. Ouais. Tu en fais partie. Sur Twitter, c'est Licorn, L-E-E, plus loin, Corn. Voilà. Donc on peut te suivre. Tu interviens également, et ça vaut pour toutes les deux. Audrey aussi, dans l'émission de Gilles Moreau, de France Bleu Hérault, qui est, à ma connaissance, en dehors des podcasts, la seule émission du PAF consacrée au vin et aux vignerons, qui s'appelle Les Héros de la Vigne.
Tout à fait. Voilà,
super émission sur France Bleu, que je vous invite à écouter en podcast. Parce que
tout à fait, on peut l'écouter.
Quand on est à Paris, on
n'a
pas
les
France Bleu Hérault.
OS ou AULT ?
OS, mais c'est un petit jeu de mots.
Moi, j'ai compris hier que c'est un jeu de mots.
C'est vrai.
J'avais pas encore fait le lien. Alors on commence par toi, donc Patricia, tu travailles avec le Trinque Fougas, tu travailles aussi avec une appellation.
Voilà, je travaille avec l'AOC Terrasse du Larzac, qui est une appellation très dynamique et qu'il me plaît de soutenir dans toutes ces démarches. C'est une jeune appellation, alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler.
On en a parlé juste avant avec André Lénart sur le fait que oui, Terrasse du Larzac, c'est plus récent que Pic-Saint-Loup, c'est 2014.
17 octobre 2014.
Comment ça se construit du coup? Toi, tu étais déjà avec eux en 2014?
Non, moi, cela fait un peu plus d'un an, un an et demi que je travaille avec l'AOC. Et oui, elle a été reconnue en 2014, mais de toute façon, les vins, ça a été prouvé lors d'une verticale qui a été organisée il n'y a pas très longtemps, depuis des années, avaient leurs caractéristiques qui leur permettent d'avoir cette qualité, cette homogénéité qui a été reconnue du coup par un joli panel de dégustateurs professionnels. Donc voilà, l'appellation est reconnue depuis 2014, mais les vins sont en place depuis bien plus longtemps.
Terrasse du Larzac, c'est une appellation qu'on te demande, toi, Florence, à la cave ?
De plus en plus demandé, de plus en plus connu. C'est vrai que les gens avant disaient je veux prendre un vin du Languedoc, ça restait vague. Et maintenant, ils ont plus de connaissances. C'est vrai que ça a commencé avec Faugères, Saint-Chinian. Mm. Maintenant, après, il y a eu Pic-Saint-Loup. Et maintenant, c'est un peu Terrasse du Larzac qui a un peu le vent en poupe, un peu plus à la mode, un peu plus dans les recherches.
Mais c'est aussi grâce aux cavistes, je trouve. Parce que les cavistes ont cette force de proposition et cette force aussi de proposer des nouvelles choses, de dire, bon, est-ce que vous voulez goûter? Voilà, c'est une appellation qui monte. Je trouve que les cavistes, les restaurateurs aussi, ont leur rôle à jouer dans ce succès.
Laurent n'étant pas là, hein, de Terre à Boire, je vais passer mon petit message. Pour moi, Terre à Boire, c'est un peu la Bourgogne du Languedoc, parce qu'il n'y a pas les mêmes histoires avec
le climat aussi.
Non, et l'histoire.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a aussi des abbayes bénédictines autour de l'abbaye d'Agnane, qui dès le 8e siècle, on a fait du vin autour des abbayes. Et c'est beaucoup comme en Bourgogne, hein, les clos bénédictins qui ont défini des terroirs et qui ont beaucoup travaillé la vigne depuis des décennies. Donc il y a une vraie histoire, une profondeur de champ qu'on a juste révélée il y a 10 ans, en tout cas à la face du monde avec l'AOC. Mm. Mais il y a 1300, 1400 ans de travail de la vigne. Et comme on le sait, quand on travaille la vigne dans la durée, on connaît les terroirs, on définit des parcelles et on a une plus grande diversité et souvent une meilleure définition des cépages et des terroirs. Donc c'est juste pour dire que c'était un peu pour moi là. C'est un peu marketing, on va dire ça comme ça, mais on pourrait dire que c'est un peu le côté, la Bourgogne du Languedoc, les terrasses du Larzac.
Oui, pour se faire une petite idée. Et puis cette amplitude thermique aussi qui caractérise le climat des terrasses fait aussi que la spécificité des vins est quand même remarquable.
Parce qu'on est un peu en hauteur, c'est ce que nous disait André Lénard. Comme à Pic-Saint-Loup, on est un peu plus au nord, un peu en hauteur, et donc on bénéficie de ça.
Ce que je disais, les amplitudes thermiques entre la journée et les soirées sont assez grandes, ce qui permet de garder une grande fraîcheur dans les vins, même si on est dans le sud et que le climat est très ensoleillé. C'est, c'est ce qui fait aussi la caractéristique du vin des terrasses.
Comme on a fait la route hier, la route qui passe par la Méridienne, on arrive au pas de l'escalette, on arrive en haut des Causses là, et on plonge.
Ouais.
On plonge juste là sur les terrasses et on voit bien qu'on vient de la montagne et qu'on descend vers la mer, mais physiquement quoi. Et donc là, on est à la limite du Larzac et on plonge là-dessus. Et les terrasses du Larzac, c'est cette jonction là, à la limite du Larzac et dans la plongée vers la Méditerranée.
Toujours de belles émotions sur ces routes. Hein. Moi, ça me le fait à chaque fois. J'ai beau y aller plusieurs fois par semaine, ça me fait toujours la même émotion.
Comment ça se passe, une appellation qui, comme ça, se construit? C'est une appellation qu'elle vend en poupe. Tu parlais des cavistes, on est bien d'accord. Nous, on aime beaucoup les cavistes. Il nous arrive de dire que c'est un peu les libraires. Ce que les libraires sont aux livres, les cavistes le sont au vin. Ils permettent de faire découvrir des auteurs, de faire découvrir des choses. Je te confirme que les vins du Languedoc, moi, il me semble que ce soit que tes cavistes ou restaurateurs, ils ont plutôt la cote. C'est presque caricatural, j'ai envie de le dire, parce qu'il y a des restos à Paris où on va avoir 3 ou 4 Languedoc, souvent nature, à des prix assez élevés, et il n'y aura pas un seul Bordeaux dans la carte, par exemple. Donc c'est un peu... On est dans une hype un peu du Languedoc, et les vins le méritent, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais
il y a aussi, faut savoir que les vins de la vallée du Rhône, une partie des classiques de la vallée du Rhône ont énormément augmenté au niveau des prix. Donc au niveau de la clientèle, il y a beaucoup qui nous disent je veux rester un petit peu sur le côté sudiste, avec des cépages dans le même style. Mais votre Côte Rôtie ou votre Châteauneuf-du-Pape, ça ne va pas être dans mon budget. Est-ce qu'on peut redescendre un petit peu plus bas? Et on trouve avec des cépages un peu similaires, avec le côté soleil, de très belles choses, mais on descend dans le Languedoc. Le Languedoc, c'est vraiment une appellation sur laquelle il faut que les gens ils aient une certaine ouverture, parce qu'il y a quelques fans qui ont fait des vacances dans la région ou qui sont originaires de la région, qui connaissent bien, mais souvent les gens sont plutôt dans une idée... Faites-moi découvrir quelque chose. Oui, pourquoi pas descendre dans le Languedoc. On est vraiment dans une idée de découverte. Il y a vraiment une confiance qui se fait avec le caviste ou avec le sommelier, où on nous dit je vous laisse faire. Donc ils nous disent un petit peu 2-3 choses sur un goût qu'ils recherchent plus particulièrement, ou sur un truc, un style, sur un cépage ou sur un terroir. Et ils nous laissent faire, faites-nous découvrir. Et c'est ça qui est super chouette, parce que les gens sur l'appellation Languedoc sont très ouverts à faites-nous découvrir. Contrairement, tu parlais de Bordeaux. Ou pour Bordeaux, ils nous disent Bordeaux, je veux tel château, et puis c'est ça, et puis c'est point et barre, quoi. Alors que sur le Languedoc, ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas d'idée précise sur un vigneron ou sur un vin. Ils vous disent j'ai envie d'un truc dans ce style-là, je vous écoute, je vous laisse faire, faites-nous découvrir quelque chose. Et ça, c'est super chouette.
Et il y a de quoi explorer aussi, avec la diversité des appellations et leur typicité. Je trouve qu'on peut vraiment voyager en restant dans le Languedoc. Parce que entre Faugères, Pic-Saint-Loup, Saint-Chinian et les terrasses, mais la clape, c'est aussi un terroir fantastique avec des vins fabuleux. Enfin, on peut que se régaler.
Tout à fait. Oui.
Audrey Akias, il faut venir ici au Trinque Fougas pour en goûter d'ailleurs beaucoup. J'ai échangé avec Mathieu tout à l'heure, qui m'expliquait que quand on arrive ici, on a le droit de déguster des vins, de goûter. Oui. C'est un peu comme notre ami Laurent au Wine Therapy, qui fait toujours goûter 2 ou 3 vins avant de choisir. Et ça, c'est une chance, parce que c'est pas le cas de tous les bars à vins. Où là, vous êtes plutôt blanc, plutôt rosé, plutôt rouge, et on vous propose plusieurs breuvages. Du coin, j'ai vu un pas de l'escalette de Julien Zarnot, dont on a déjà parlé dans La Terre à Boire. J'ai vu des vins qu'on connaît, des Cojol Gazé, dont tu parles parfois dans Les Héros de la Vigne. Et voilà, on est dans un endroit où on peut découvrir des vins. Et justement, Patricia, tu nous as amené, apporté un Terrasse du Larzac.
Un Terrasse du Larzac, voilà, c'est Masse Brunet. Je l'ai choisi justement pour faire un petit peu d'une pierre deux coups, parce que c'est un beau vignoble. C'est l'un des plus anciens du Languedoc en cave particulière. C'est la 5e génération de vignerons. Et je l'ai choisi bah, parce que je travaille avec la OCT du Larzac, qu'il va y avoir beaucoup d'occasions de déguster leur vin, puisque le 5 et 6 juillet prochain, en terrasse du Larzac, il va y avoir l'événement qui s'appelle la Circulade, qui est un événement fantastique, puisque c'est une marche, une balade bucolique.
La Circulade.
Voilà, la Circulade.
Ça sonne sud.
Ça sonne sud.
Est-ce que vous barulez
Est-ce que vous barulez en Circulade,
J'ai pas compris.
Non. Nous non plus. Nous non plus. Faut que Maxime nous explique.
Bah, baruler, c'est se promener, c'est errer.
D'accord. Hein. Donc on barule
en ça, c'est ça.
Ça voilà. Baruler, circulader, c'est pareil en fait.
Baruler, circulader, voilà.
Pardon. Non, pas de souci. Et donc voilà, on fait quelques kilomètres agrémentés donc de pauses gastronomiques et vineuses, donc dans un cadre magnifique, puisque là ce sera au prieuré Saint-Michel de Grandmont. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. Mas Brunet, donc pour en revenir à cette cuvée, c'est la cuvée Élégance, donc qui est en AOC Terrasse du Larzac. C'est 18 mois en fût de chêne. Donc c'est un vin qui appelle, moi j'ai envie de dire, le cochon de lait de Trinquefougas. C'est un bon accord mévin. Voilà, c'est pas un vin d'apéritif, hein, c'est quand même sérieux, c'est structuré. Sur les épices, sur les fruits rouges bien mûrs, la griotte, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, je ne sais pas, vous êtes en train de le déguster autour de la table, si vous avez des commentaires à faire.
Là, on ressent beaucoup plus le côté un petit peu épicé. Oui. Y a une petite note sur les épices classiques typées poivre, mais il y a aussi des épices un peu plus douces. Il y a un côté un peu entre la muscade, la cannelle, des choses un petit peu plus douces comme ça. Ça a du caractère.
Ça a beaucoup de caractère, oui. Et voilà. Et donc Mas Brunet est l'un des petits nouveaux qui vient d'entrer dans la sélection des domaines du Festival des Vins d'Aniane. Donc voilà. Donc d'une pierre deux coups, ça me permet de parler des deux choses.
Festival des Vins d'Aniane. Et donc ça se sera quand ?
19, 20 et 21 juillet.
D'accord.
Donc à Aniane.
Tu fais pas que ça, parce que tu travailles aussi pour Vinifille.
Pour les Vinifille, voilà.
C'est qui les Vinifille ?
Ah, les Vinifille, elles sont 18, alors de toutes les énumérer, ça va être compliqué. Mais elles sont donc 18 vigneronnes qui se sont fédérées en 2009 pour avoir un petit peu plus de force dans leurs opérations de communication, leurs opérations commerciales, pour avoir aussi de jolis stands communs sur les salons notamment. Et elles sont basées entre Nîmes et Collioure, donc voilà, dans le Languedoc et le Roussillon. Et voilà, c'est une pépite à découvrir, puisque voilà, ce sont 18 personnalités pétillantes, toutes vraiment, avec des vins.
Ce sont 18 vigneronnes.
Vigneronnes.
Des femmes,
voilà,
qui font leur vin.
Vinifilles, ouais. Donc voilà, que des femmes vigneronnes, hein, qui travaillent depuis des années dans le vin et qui ont eu cette initiative parce que. Bah, c'est quand même un fait. Le monde du vin est un monde masculin. Et donc pour s'imposer, encore qu'aujourd'hui ça commence de plus en plus.
En fait, il est déjà très relativement féminisé, mais oui. On a l'impression qu'il n'y a que des hommes en fait. C'est-à-dire que la partie communication, la visibilité.
C'est ça, les figures visibles sont pour la majorité des hommes, encore masculines.
Oui. Alors qu'en fait, au cœur des exploitations, il y a très souvent des femmes.
Il y a beaucoup de femmes.
Soit elles sont vigneronnes, soit elles sont à côté du vigneron, mais elles font aussi un travail énorme sur la partie gestion du domaine.
Oui. Et de plus en plus de visibilité, néanmoins, parce que regardez autour de cette table, on est déjà trois.
Ben on est très contents d'être à parité.
Voilà.
Hommes-femmes. Et on va parler de Women Do Wine après, mais c'est, tout ça, c'est un peu la même mouvance. Est-ce qu'il y a des événements Vinifille, du coup, qui sont organisés ?
Il y en a énormément. Il va y avoir quelque chose dans pas longtemps à Collioure. Enfin. Il faut suivre la page Facebook des Vinifilles parce que vraiment de mémoire, c'est impossible de.
Ben oui, il faut suivre. J'invite l'auditeur à aller suivre la page Facebook des Vinifilles.
La page Facebook, Instagram et Twitter, bien sûr.
Et enfin, lécher.
Alors la boxe chez les filles, oui, voilà, donc ça c'est encore une autre initiative qui est née de sa créatrice qui s'appelle Mélanie Dauphin, qui un jour a reçu une boxe beauté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept, donc vous vous abonnez et puis chaque mois, vous recevez une petite boîte avec 5 produits de beauté à découvrir. Et elle s'est dit, mais c'est génial, pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose, mais qu'avec des vins de vigneronnes ? Et donc, la box chez les filles, donc c'est CHAI, est née en 2015. Et donc, depuis, ça fonctionne très bien. Ce sont des vigneronnes de toute la France, de tout type. Et donc vous vous abonnez et chaque mois vous recevez deux ou trois bouteilles donc de vin de vigneronne française. On a fait des petites exceptions avec une vigneronne du Douro au Portugal. Et on fait des petites opérations là
j'ai
au mois
peur,
de...
J'ai cru une exception en ayant un vigneron. Non, c'est
non,
une vigneronne
On aimerait bien parfois parce qu'on a tellement de vignerons qui nous soutiennent. On a un vigneron qui nous soutient particulièrement, c'est un vigneron champenois qui s'appelle Benoît Ferry, à qui je passe le bonjour.
Mais oui, bien sûr, on le salue.
Mais voilà, qui s'est abonné et qui est toujours dans l'actualité de chez les filles. Donc voilà, super, super fan club. Et voilà, et ce mois-ci, par exemple, au mois de juin, dans la box chez les filles, on fait quelque chose d'assez fou. On propose un coffret avec deux cuvées qui sont du domaine Oliroux, qui est une vigneronne qui est basée à Saint-Jean-de-Cucul, donc toujours dans le Languedoc, en Pic-Saint-Loup, et qui a fait une expérimentation avec une cuvée qui s'appelle Mélodie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est en fait un principe de vinification en musique. Donc elle a ramassé les raisins le même jour. Elle les a mis en cuve le même jour, dans deux cuves séparées, la cuve A, témoin, et la cuve B, donc la cuve Mélodie. Et avec un principe qui s'appelle Swing It, ils ont plongé en fait une enceinte dans la cuve. Et elle jouait de la musique, donc 20 heures sur 24, depuis la vendange jusqu'en décembre. Et donc, à partir de là, deux cuvées sont nées, la classique et la cuve Mélodie. Et l'idée dans la box de chez les filles ce mois-ci, c'est de déguster les deux cuvées en simultané pour voir la différence. Et alors moi, j'ai fait le lancement de cette cuvée, c'est bluffant.
Il y a une grosse différence entre les raisins qui ont écouté la musique.
Je ne veux pas spoiler parce que franchement, c'est une expérience, non, en fait, c'est une expérience
y a pas de musique,
à vivre.
C'est vachement meilleur. C'est ça le truc.
C'est pas une question de
meilleur.
C'est vraiment différent. C'est-à-dire que.
Bon, on sent qu'il y a un impact.
Rien que
la
couleur,
la
robe dans le verre est différente.
C'est les vibrations.
Oui, voilà, c'est les vibrations.
La question qu'on se pose, c'est quelle musique ?
Alors là, en l'occurrence, on ne peut pas mettre n'importe quelle musique. Ce sont des études qui ont été faites. Si on met du hard metal.
Ouais, Rammstein, ça marche
non,
pas.
Non, Rammstein, non, ça va. Le vin va être un petit peu violent, quoi. Non, mais ils ont mis l'album de Lisa Simone, donc la fille de Nina Simone, qui est une jazzwoman d'origine américaine, mais qui vit dans la région. Et voilà, donc
elle vit en Languedoc, la fille de Nina Simone.
Oui, elle vit en Languedoc, ouais. Elle vit en Languedoc.
Tu connais pas le château Simone ?
Enfin non, pardon. Château Simone en Provence,
pardon.
Donc voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est absolument de faire cette expérience parce que c'est assez bluffant, c'est un nouveau procédé. Je pense que ça rentre totalement dans l'esprit de la wine tech, hein. C'est assez bluffant. Donc
wine
voilà,
tech et biodynamie ou pas du coup ?
Parce je ne sais que pas c'est, si ça on peut rentrer dans le
alors,
cadre
parce
de...
Que le principe fondamental...
Non, parce que
quand
la
même,
biodynamie, c'est dans les vignes.
Oui, mais certes, mais auquel ça fait écho, c'est que quand même, dans le principe de Steiner, etc., c'est qu'il y a un certain nombre d'ondes.
Oui.
Chaque jour, quand on déguste un vin, ce n'est pas les mêmes pressions. Alors après, encore une fois, c'est des questions de... Mais c'est plutôt une dynamique, en tout cas, ou une réflexion, historiquement plutôt steinerienne, on va dire. Qu'il y ait une influence, effectivement, des ondes, etc., etc. Alors là, c'est une approche plutôt wine tech, c'est la version wine tech.
Ça s'était déjà vu, on a déjà vu des domaines où on mettait de la musique dans les chais, voilà. Mais là c'est vraiment
dans la cuve.
Dans la cuve, voilà. Et non, c'est, je vous recommande, si vous restez un petit peu, d'aller faire la dégustation chez Mireille Rambier au domaine Oliroux. Ouais. Ou d'acheter la box chez les filles si vous repartez.
Oui, voilà.
Saint-Jean-de-Cucul, oui. Très beau domaine, très, très beau domaine, notamment aussi en œnotourisme, si vous avez l'occasion d'aller voir. Il y a des pans partout. Voilà, donc Léon se balade dans le domaine.
Léon Le Pan.
Ou Léon Le Pan.
C'est vrai que c'est aussi un domaine, le no-tourisme, comme dans une région qui est déjà touristique, il y a de la montagne, il y a de la mer, il y a beaucoup de choses à visiter. Le no-tourisme a vraiment une grande gamme de services à proposer. On a beaucoup de domaines, des endroits où on peut passer quelques jours en Languedoc. Ouais.
Il y a énormément de structures, oui. De plus en plus même.
Ça se développe.
Oui.
Audrey Martinez, toi aussi tu fais mille choses, dont certaines avec Patricia, comme on l'a dit, les héros de la vigne sur France Bleu. On salue Gilles Moreau au passage qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin, qui était partant mais finalement qui a été retenu. Donc un petit peu de radio avec France Bleu, un blog, La Wineista, donc toi aussi tu es une digital women do wine. Il y a beaucoup de gens qui te suivent sur Twitter, Facebook, etc. Et tu fais également ton vin. Dans le domaine, la Vivarelle. Raconte-nous un peu l'histoire.
Et je fais aussi partie de la box de chez les filles.
D'accord.
Voilà.
Et c'est-à-dire de l'organisation de la boxe ou ton vin est dans la boxe.
Donc Mélanie déguste mes vins régulièrement et selon ce qu'elle pense de la dégustation, elle les inclut dans la boxe. Ouais.
Ok, super. Donc, on a bien retenu, il faut s'abonner à la boxe chez les filles. Voilà, comme ça, on a des vins de vigneronne
de juillet,
à découvrir.
Je lance l'info. La Vivarelle, c'est chez les filles.
Donc la Vivarelle, c'est toi qui as créé le domaine à partir de vignes qui étaient dans une exploitation familiale. Mais avant, c'était le modèle coopératif. On amène tous les raisins à la COP. Toi, tu as choisi de vinifier. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Donc moi, je suis œnologue de formation. Donc j'ai travaillé pour divers clients dans divers vignobles. Et forcément, ayant des vignes à Tourbes à côté de Pézenas, qui viennent de mes grands-parents respectifs, on en a acheté aussi un petit peu avec mes parents. Logiquement, ça m'a titillé et j'ai eu envie de faire mon propre vin. Voilà, donc le domaine La Vivarelle, je l'ai créé en 2014. Donc c'est une aventure qui commence. Ouais, c'est encore un jeune bébé. Ouais.
Et vous amenez encore sur le domaine familial des raisins à la coopérative. Et toi, tu vinifies une petite quantité de raisins pour faire tes propres cuvées, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc on a une trentaine d'hectares parce qu'il y a toujours des sols qu'on laisse en repos. Et quand on a créé le domaine en 2014, je ne pouvais pas tout vinifier comme ça d'un coup avec aucun débouché commerciaux. Et en plus, moi, je voulais vraiment faire des cuvées intimistes. Parce que vraiment, je voulais pouvoir faire tout à la main, de la vendange à la mise en bouteille. Et donc, ce travail-là, je ne pourrais pas le faire sur de gros volumes. Voilà, donc aujourd'hui, l'exploitation est divisée en deux, avec une partie qui va en cave coopérative et une autre partie qu'on vinifie à la Vivarelle. Voilà, donc la Vivarelle, quand on l'a créée, donc on n'avait pas de nom, en fait. C'est vraiment, on a tout créé de A à Z. Et c'est une source qui passe sous une partie de nos vignes. Et voilà, c'est un endroit très beau avec des chênes verts où les habitants, les Tourbains à l'époque, donc mes grands-parents, allaient se rencontrer à cet endroit-là où il y avait pas mal de dragues, de pique-niques. Voilà, donc on a choisi d'appeler notre domaine La Vivarelle parce qu'on veut faire des vins qui sont conviviaux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi un logo avec un V argenté pour rappeler les reflets de l'eau.
D'accord. Voilà.
Voilà, donc vraiment, à la Vivarelle, donc on a la chance d'avoir 15 cépages sur le domaine.
Ah oui, vous avez toute la panoplie là.
Alors. Voilà, on a une belle panoplie qui illustre la diversité des cépages.
Rouge-blanc
dans le Languedoc, oui. Blanc-rouge-rosé.
D'accord.
Et nous, on fait des micro-cuvées, donc on fait maximum 2000 bouteilles par cuvée. On fait en gros 8000 bouteilles en tout. Et on peut plonger comme ça dans les terroirs, choisir la rangée la mieux équilibrée. Donc on déguste les baies. Voilà, quand l'équilibre, vraiment, on sélectionne rangée par rangée pour faire nos cuvées. Ouais. Et ça, c'est mon père qui a vraiment la connaissance historique du terroir, qui lui connaît le moindre cep de vigne. voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me transmet.
Et la grand-mère aussi.
Et oui, et mamie. Ouais. Oui, parce qu'il y a, encore une parcelle de vigne qui rentre justement dans l'assemblage de Madame Rêve Rouge et qui appartient à ma grand-mère. Voilà. Donc c'est...
Madame Rêve, c'est donc le vin que tu as apporté, c'est le nom de la cuvée. Madame Rêve en rouge, il y a aussi une Madame Rêve en blanc.
Et en rosé, oui.
Et une en rosé.
Alors vraiment, Madame Rêve, elle est au début de l'aventure du domaine de la Vivarelle. Quand on l'a créé en 2014, on n'avait pas d'équipement, en fait. On avait en cave, on avait deux petites cuves inox de 5 hectos, on n'avait rien, quoi. Voilà, donc on a créé juste Madame Rêve Rouge. Donc là, on a cherché un nom. Donc on voulait faire un assemblage de Syrah, parce que moi, c'est un cépage que j'aime beaucoup, la Syrah. Et on s'est dit, on cherchait un nom. Alors c'est vrai que la Syrah, elle est insoumise. Parce qu'au niveau de la vigne, elle a des rameaux qui partent dans tous les sens. Elle est très difficile à palisser. C'est un petit peu galère d'arriver à la conduire. Donc moi, j'avais pensé à l'insoumise. Donc on réfléchissait, trouver un nom. La Syrah, c'est aussi un des rares cépages rouges qui soit grammaticalement féminin. Mmh. On a le Mourvèdre, le Grenache, le Carignan.
Il n'y a que des noms masculins.
Il y a beaucoup de noms masculins. Et donc du coup, on cherchait un nom qui, voilà, insoumise.
C'est en blanc qu'il y a des noms féminins, en fait. La voilà. Roussanne, la Marsanne, la Clairette.
Voilà, mais en rouge, ouais. C'est vrai que c'est plus masculin. Donc vraiment, je voulais un vin, un nom avec une connotation féminine. Et puis un jour, j'ai entendu la chanson d'Alain Bachung. Et voilà, oui. Ça a été la révélation. Ouais.
Quel joli choix et quelle jolie chanson. Ouais.
Donc forcément, c'est bien de la déguster en écoutant la chanson aussi. Ouais.
Alors là, on a une fougasse, du train fougasse. On peut chercher la chanson.
Il n'a pas fait une chanson qui s'appelle Fougas Bachon?
Non. Non, je crois pas. Non.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin Madame Rêve en rouge, domaine de la Vivarelle? Donc là, c'est vraiment microscopique, hein, enfin, c'est confidentiel, 2000 bouteilles la cuvée.
Alors c'est confidentiel, et là, vraiment, moi j'ai voulu faire un assemblage de terroirs. Voilà, donc il y a 3 terroirs dans Madame Rêve rouge, parce que j'ai aussi des vignes sur Cabrières, qui est une appellation du Languedoc, qui pour moi est vraiment pas assez connue, et qui a un potentiel qualitatif énorme, parce qu'il y a un sublime terroir de schiste.
C'est où Cabrières, près de...
C'est plus dans l'arrière-pays, près du lac du Salagou.
D'accord, ok, donc pas très loin des Razulars, d'accord.
Voilà, pas très loin. Mmh. Et là, vraiment, on est en altitude, on est sur schiste, qui est un terroir superbe. Et donc moi, j'ai vraiment voulu assembler les sols, parce que chaque terroir amène sa pierre à l'édifice. Voilà. Les schistes amènent de la fraîcheur, c'est un terroir un petit peu plus tardif, avec des tanins toujours très soyeux. J'ai aussi des terrasses villafranchiennes qui sont un ancien lit de rivière, des galets roulés. C'est un terroir assez chaud, donc qui amène du gras, du volume. Et ensuite, j'ai de l'argilo-calcaire. Voilà. Et vraiment, donc, je vinifie de façon séparée. Et quand on déguste les 3 micro-cuves avant d'assembler, vraiment, elles ont des typicités complètement différentes. Ouais.
Là, c'est vraiment la représentation un peu des 3 types de sols principaux qu'on retrouve dans le Languedoc. Hein. C'est, on parle
le schiste.
Le schiste, l'argilo-calcaire et les galets roulés.
Oui, tout à fait. Ouais.
Tout ça uniquement sur de la Syrah? Il n'y a qu'un seul cépage.
Oui, monocépage. Voilà,
tu n'assembles pas les cépages, mais tu gardes le même cépage et tu assembles les terroirs.
Voilà, c'est exactement ça.
Intéressant.
Et les vignes, elles ont le même âge ou elles n'ont pas le même âge du coup?
Non, elles n'ont pas forcément le même âge parce que la Syrah sur terrasse villafranchienne de mamie, c'est la plus âgée, oui. Mmh. Ouais, elle a plus de 50 ans, ouais, c'est la parcelle la plus âgée. Ouais.
D'accord. Oui, comme il se doit.
Oui.
C'est très joli, hein. Et c'est différent du brunet qu'on vient de
déguster. C'est diamétralement opposé, j'ai envie de dire. Là, on est sur quelque chose de... C'est complexe, subtil et très gourmand. Rien qu'au nez, déjà, c'est... Je ne sais pas si ça va te plaire, mais c'est très féminin, c'est très...
Très élégant, moi, j'ai trouvé ça.
Très élégant, ouais.
Il y a beaucoup moins le côté épicé qui explose. C'est plus
beaucoup.
En velours, c'est plus en rondeur, c'est plus en souplesse.
Voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire en assemblant ces 3 terroirs. Moi, je dis, j'ai voulu faire une cuvée à la élégante, à la complexité subtile qui invite à la détente.
D'accord.
Voilà. Un vin rouge qui donne le sourire aux lèvres, qui fait saliver, qui donne envie de le tester sur différents plats. Avec des tanins très bien enrobés, voilà, gouléants. Mmh. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Ouais.
C'est très agréable, il y a un côté même rafraîchissant, simple. Et,
Voilà, donc là, c'est vraiment le terroir de schiste, en fait, qui donne toujours ses finales fraîches, un peu mentholées, un petit peu eucalyptus.
Et la vinif, alors, c'est de l'inox?
Oui, c'est de l'inox, oui. Alors après, pour ce vin-là, comme pour tous les vins, le plus important, c'est la qualité des raisins, hein, avoir une maturité optimale, un état sanitaire le plus sain possible. Et quand on a des beaux raisins, donc nous on trie, donc on fait tout à la main, hein, donc on vendange évidemment à la main, donc on trie déjà à la vigne, on trie ensuite en arrivant en cave après grappage, donc vraiment ils rentrent dans les cuves que des baies, pas du tout de partie végétale. Donc des fois je fais des photos, on dirait des petits grains de caviar en fait.
Il n'y a pas d'escargots, pas de sauterelles.
Non, alors moi je sauve les escargots et les pince-oreilles en plus, donc voilà, je me fais des fois houspiller parce que ça ne va pas assez vite, mais... Voilà, et après, le vin rouge, vraiment, on l'accompagne avec un petit peu de froid pour maîtriser les fermentations. Et puis, ça se fait tout seul, qu'on fait des pigeages à la main. On extrait avec parcimonie, justement, pour avoir des tanins soyeux et bien ourlés. Et après, on a un pressoir.
On a vu les photos du pressoir, le tout petit pressoir. On est très loin de la grosse machine pneumatique que l'on voit dans les chais high-tech.
C'est un vieux pressoir manuel.
Ouais, c'est un pressoir bois à cage ouverte, manuel,
d'accord.
Avec le petit cliquetis, là, clic, clic, clic. Et en fait, c'est très qualitatif, hein, c'est vraiment tout simple. Mais donc, il faut du temps, il faut de la patience. Moi, je dis, pour réussir un bon pressurage, c'est vraiment l'art de la patience. Il faut y aller petit à petit. Voilà, le laisser pour pas extraire trop dilacérer les pellicules. Voilà, donc, tout se fait en douceur. Voilà. Ça peut durer, pressurage, ça peut durer jusqu'à 4-5 heures. Oui.
Ah ouais, d'accord, ouais. Ok.
Ça te va bien, la douceur?
Les deux complices.
Elle me regarde en riant. Je pense que je l'ai scotché un peu là.
Ouais.
Le travail sur le blog, c'est pour toi, c'est une autre activité. Ça a quand même rien à voir avec le fait d'être vigneronne et de les choisir un petit peu les choix que tu fais sur les parcelles, les assemblages et tout ça. Comment tu qualifies ce travail-là? C'est une façon de mettre en avant d'autres vignerons, d'autres vigneronnes, d'aborder des questions dont tu as envie de parler.
Et comment tu fais pour réussir à faire tout ça?
Oui,
c'est d'autant aussi, sur les réseaux sociaux, plus question. Être dans les vignes.
Moi, c'est une question que je me pose aussi.
Ben, quand tu presses, comme ça dure 4 heures, tu peux.
Voilà.
Tu Instagram.
Sauf que le réseau est très mauvais dans la cave.
Non mais c'est vrai, toutes les deux c'est un peu le cas, vous faites tellement de trucs, comment tu fais?
En fait moi ma passion c'est le vin, voilà, donc j'aime faire du vin, mais ça me suffisait pas, j'ai eu envie de pouvoir en parler et vraiment de pouvoir démocratiser le vin, de faire tomber des a priori. Moi mon objectif ça serait que tout le monde aime le vin, quoi, et que tout le monde s'éclate et soit curieux vis-à-vis du vin, donc c'est vraiment ce qui me motive.
C'est l'évangélisation. Écoute, on est dimanche matin.
Ah oui.
On a raté la messe à côté de cette émission.
De Pentecôte.
Voilà, donc j'ai vraiment envie d'initier. Je me rappelle un jour, j'ai eu une stagiaire qui buvait pas de vin, donc à 20 ans. Donc je me suis dit, c'est pas possible, là, il va falloir.
Faut la sauver.
Voilà, un stage de 6 mois, je me suis dit, à la fin, elle va boire du vin, quoi. Voilà, donc vraiment, j'aime initier les
mission
gens.
Accompli, c'est bon, tu as réussi à la convertir.
Oui. Tout va bien. Elle est même passée au rouge maintenant, donc je suis ravie.
Elle est passée au rouge. Elle a passé la seconde.
Elle a commencé avec du rosé. Après, il faut commencer avec des vins faciles à appréhender, avec des arômes dominants qu'on arrive à identifier facilement, se faire un petit peu le palais. Et après, on augmente en concentration et en complexité. Ouais. Mm. Oui, voilà. Alors après, la winista. Donc moi, on me disait, on aime bien quand tu nous parles du vin. Et j'ai un ami qui m'a dit, Audrey, essaye d'écrire sur le vin, d'avoir un blog qui parle du vin. Et puis bon, je m'étais dit, ouais, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Et puis un jour, c'était aussi un dimanche après-midi où, j'ai pris une feuille blanche et puis les idées me sont venues, le nom des rubriques, enfin ça a été, assez rapide à faire, en fait, ouais. Et du coup, ça me permet de rencontrer des vigneronnes et des vignerons de la France entière et même à l'étranger. Et ça me permet, voilà.
Il y a eu le voyage en Géorgie.
Oui. J'ai lu avec beaucoup d'avidité parce que c'est des vins qu'on connaît assez peu et il y a des très belles choses.
Oui,
mais
c'est
difficile à trouver, c'est dommage.
C'est les racines de la vigne.
Ah oui,
c'était
vrai.
Il y a 7000, 8000 ans. Voilà,
on
parle aussi ça a commencé
des
là,
vinifs
hein.
sur le blog. On explique
c'est retour aux sources.
Oui, voilà, c'était les origines de la vinification.
C'était vraiment émouvant pour moi. Ça faisait longtemps que je voulais aller en Géorgie parce que c'est vraiment le berceau du vin. Et vraiment de se retrouver. Donc je suis partie avec une agence de wine tour qui s'appelle les Robes de l'Est, donc, qui est spécialisée dans tous les vins de l'Est, en fait. Et vraiment rentrer là, voilà, voir ces vieux cuivris qui sont retrouvés dans les jardins enterrés dans lesquels on vinifie depuis des milliers d'années, ça a vraiment été émouvant pour moi, une très belle découverte.
Ouais. Des dolias, c'est ça, des cuves enterrées.
Oui, des cuivris, ils cuivris, appellent. Cuivris. Ouais, voilà, des cuivris. Ouais.
Toi, Florence, c'est un blog que tu suis régulièrement, La Wainista, tu y trouves des informations.
J'ai trouvé aussi des articles sur tout le vin.
Oui,
ouais, c'est ça, tout le vin.
Oui, voilà.
J'ai plus commencé par tout le vin.
C'est un autre blog.
Après, sur Wainista.
Tu gères deux blogs, en fait.
Non. Alors, en fait, moi, j'écris donc, sur la Wainista, j'écris ce qui me passe par la tête, en fait. Ça peut être un bar à vin que je trouve sympa, mettre en lumière une appellation, un cépage, voilà.
Ça peut être la terre à boire que tu trouves vachement sympa. Ça peut être...
Et à côté de ça, j'ai des clients, en fait. J'écris des accords mets et vins pour les Côtes de Gascogne.
D'accord.
Voilà, je fais des initiations à la dégustation, des cours sur les accords mets et vins. Et j'écris aussi pour tout le vin. Là, je suis un peu leur référent technique, en fait, où je vulgarise des sujets scientifiques.
D'accord. Voilà. Tout le vin est un site qui existe
sur
par ailleurs.
Tout le vin, oui. Les articles sont très intéressants parce que moi, c'est mon côté un peu maître d'apprentissage pour pouvoir dire aux jeunes, si tu n'as pas trouvé l'info dans ton livre parce qu'il est un peu poussiéreux et qu'il n'est pas très au goût du jour, tu peux aller sur ce blog-là et tu vas avoir la question technique expliquée simplement et qui va te permettre de comprendre.
C'est ça. C'est vraiment la volonté de tout le vin. En fait, c'est simplifiez-vous le vin.
Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire avec tous les autres rédacteurs. Oui.
Voilà, donc tous les étudiants en BTS Vitivini, allez surtout le vin.
Écoutez les Héros de la Vigne, parce que c'est aussi un peu le but des Héros de la Vigne, de parler de vin simplement, de donner envie et de donner les bons plans de la région.
Alors, à propos des Héros de la Vigne, j'en ai écouté quelques-unes et je me suis dit, si on avait Gilles Moreau, la question que j'avais lui poser, c'est qu'il nous raconte un peu des anecdotes, parce que je pense qu'avec cette émission, vous déplacez dans des événements, du vin, des dégustations, il doit y avoir quand même des souvenirs assez incroyables. Je suis sûr qu'il y a des scènes et des rencontres assez savoureuses dans le cadre de cette émission. On sent qu'il y a beaucoup de joie de vivre. Là. C'est toujours hyper souriant.
Chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice avec ses propres expériences, ses propres anecdotes et ses bons plans. Et c'est vrai qu'après, la synergie et la complicité se créent sur le plateau. Et on fait aussi de belles rencontres parce qu'Audrey et moi, on se connaissait déjà. Donc c'est vrai que ça se ressentait, je pense, sur le plateau quand on était ensemble.
Ça s'entend, bien sûr.
Et puis après, on rencontre aussi des gens pour la première fois, juste 5 minutes avant de passer à l'antenne. Et c'est très sympa aussi, parce que du coup, le ping-pong verbal se fait différemment. Et puis, c'est vraiment une belle émission. Et puis quand on a l'occasion aussi, moi j'ai eu l'occasion de partir avec Gilles en reportage, notamment au Pas de l'Escalette, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est très intéressant d'avoir cette approche où la personne qui écoute n'a pas le visuel et n'a pas le goût, et n'a pas tout ce que nous on peut ressentir. Et donc il faut savoir donner envie d'aller plus loin, éventuellement de se déplacer, d'aller au domaine ou d'aller chez le caviste pour aller déguster. Et donc ça, c'est une mission qui se fait uniquement avec les mots. Et je trouve que c'est passionnant. C'est ce que vous faites aussi dans les podcasts.
On essaie de donner envie aux gens, avec les mots, comme tu dis, avec le son, de découvrir l'univers du vin.
Ouais.
Au-delà juste du fait de tremper ses lèvres. Et
puis créer des images mentales, en fait.
C'est ça.
Ça parle par le verbe.
Ouais. C'est un peu la différence quand on lit un livre et qu'ensuite on va voir un film, en fait. C'est vrai que l'imagination, quand on ne voit pas forcément l'image, c'est magnifique. Et des fois, après, on peut être même déçu avec de l'image. Donc c'est vraiment...
On n'est jamais déçu, du coup.
On est rarement déçu par les vins qu'on déguste en émission, ça c'est vrai.
Et moi, je voulais te redemander, Audrey, quand tu as fait ton diplôme d'œnologie, c'était dans l'idée de reprendre ces vignes familiales et d'en faire quelque chose, ou c'était parce que la passion du vin était là et puis voilà.
Alors en fait, non, moi je voulais pas faire, parce que mon père est œnologue, donc moi je voulais pas faire comme mon père. Donc quand j'ai été Donc quand j'ai fait mes études, je suis une scientifique, donc je me suis orientée vers les sciences. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'y a que le végétal qui me plaisait, pas du tout l'animal. Et ensuite, dans le végétal, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que les cultures pérennes et que les arbres fruitiers. Bon, ça m'intéressait pas trop.
Finalement, il n'y avait que la vigne.
Voilà. Et du coup, alors après,
encore Vitis vinifera.
Du coup, c'est vrai que je me suis dit, mince, c'est vraiment la vigne qui te plaît. Du coup, j'ai fait l'agro supagro à Montpellier, où j'ai passé le diplôme d'œnologue aussi. Et au début, non, en fait, je voulais voir autre chose que le département de l'Hérault. Enfin, moi, j'étais vraiment curieuse, voir d'autres vignobles, connaître d'autres cépages. Donc là, dans la première phase, ça a été une phase de découverte. Donc j'ai travaillé sur le Bordelais, sur les Côtes du Rhône. Voilà. Et après, petit à petit, avec la maturité,
Alors, ça m'amène à ma deuxième question sur le Bordelais. C'est très, très différent quand même, le Bordelais et le Languedoc. C'est un peu les opposés. Le Bordelais, c'est les domaines, les châteaux qui sont connus depuis des années, très stéréotypés dans un style de goût de vin. Il y a une météo qui donne un effet millésime très important, et des vignerons qui essayent de gommer au maximum l'effet millésime. Et donc, dans le Languedoc, c'est l'opposé. C'est des domaines un peu récents, un peu jeunes, plus méconnus, et avec un effet millésime météo peut-être quand même moins important que sur Bordeaux, et des vignerons qui essayent de faire des choses, qui s'essayent à des cuvées différentes d'une année sur l'autre parce qu'ils ont voulu tester des choses. On peut dire que les vignerons du Languedoc sont un peu plus aventuriers que les vignerons de Bordeaux.
Non, je dirais pas ça, parce qu'à Bordeaux, il y a aussi les grands châteaux, les grands crus classés. où vraiment c'est transmis de génération en génération. Mais maintenant, il y a des industriels aussi qui en ont racheté pas mal. Mais après, à Bordeaux, il y a aussi plein de petits, petites vigneronnes et vignerons qui galèrent un peu. Et qui ont, font les mêmes démarches que dans le Languedoc. Voilà, y en a aussi qui sont créatifs. Là, il y en a certains qui plantent du chardonnay, qui vont faire un vin de France pour voir ce que ça va donner dans le Bordelais. C'est vrai qu'on a des fois cette image des gros châteaux, mais qui, en fin de compte, n'est pas représentative du vignoble du Bordelais. Ouais.
Ce sera notre prochain cycle. Je fais un peu de teasing, le cycle Bordeaux, en deux épisodes. Où on parle des vins de Bordeaux, justement des grands châteaux, et puis de ce qui se fait à côté des grands châteaux.
Alors moi, j'avais un petit peu d'appréhension quand je suis partie habiter donc à Bordeaux. Donc il y a mes amis d'ici qui me disaient, mais t'es une traîtresse, tu pars chez les vilains bordelais.
Il pleut tout le temps là-bas.
Bon, j'avoue que la première année, ça a été difficile. Ouais. J'ai bousillé pas mal de belles paires de chaussures à cause de la pluie.
Voilà, le brushing aussi.
Le brushing, non, moi ça... Voilà, et après, je me suis rendu compte, oui, en effet, il y a quelques personnes qui dénigrent le Languedoc, qui se sont moquées de mon accent. Oui, voilà, il y en a quelques-unes, mais à côté de ça, j'ai fait des très belles rencontres avec des gens qui sont curieux, qui s'ouvrent aussi au vin du Languedoc.
Il y a beaucoup d'amoureux du vin aussi.
Voilà, il y a aussi beaucoup d'amoureux du vin. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, à Bordeaux, il y avait presque plus d'amoureux du vin que dans le Languedoc. Parce que même les ados, les jeunes, ils ont cette culture du vin qu'on n'a pas forcément dans le Languedoc. Moi, je me rappelle, je peux, bon là, un petit peu moins maintenant, mais il y a une dizaine d'années, je me battais à arrêter de boire du pastis à l'apéro, quoi. On a tellement de super vins, tandis qu'à Bordeaux, non, le vin est déjà là dès l'apéritif, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est...
Arrêtez de boire du Château Margaux à l'apéro, les gars. D'abord, ça coûte une blinde.
C'est un dessin.
Ouais, sans faire trop de teasing, mais ce qu'on disait un peu de Bordeaux, on va faire la digression, mais... Effectivement, Bordeaux, il y a sûr c'est le complexe d'Oedipe, hein, c'est, il faut tuer le père, quoi. Parce que Bordeaux, oui. C'est le père, d'abord les châteaux, les classements, etc. etc. Et donc, il y a toujours cette volonté de faire mieux et cette, pédance un petit peu du père parce qu'il y a les classements.
Dans ce que dit Audrey, il y a quelque chose de vrai.
Il y a un côté oedipien.
Ouais. C'est que Bordeaux, c'est peut-être une région dans laquelle le vin est profondément ancré. D'ailleurs, oui. Tu connais forcément quelqu'un qui bosse de près ou de loin dans le vin. C'est ça. Le vin est tellement présent depuis très longtemps qu'il est ancré. Et c'est pas anodin. Tu dises à l'apéro, à Bordeaux, on boit du vin. Ici, on boit du pastis. Et effectivement, dans le sud, on boit beaucoup du Ricard.
De moins en moins, quand même.
Pour l'apéro. Et c'est des choses culturelles qui sont notables, qui sont intéressantes.
Et en plus, dans ces années-là, c'était la période du grand virement du travail en classique, en conventionnel, avec ce virement vers des gens qui commençaient à s'intéresser à l'agriculture biologique, à la biodynamie. On ne va pas faire un spoiler sur l'émission Bordeaux
qu'on a
faite.
Non, on ne va pas faire l'émission Bordeaux.
Mais
alors qu'on
mais on avait parlé un petit peu de ce revirement. Et donc, ce revirement était déjà en cours avant sur Montpellier, sur la région du Languedoc. Ils étaient quand même peut-être un peu plus précurseurs en œnologue sur le travail. Ça devait faire une différence parce que on commençait à en parler à Bordeaux alors que c'était déjà un petit peu plus inscrit, un petit peu plus engagé sur la partie du Languedoc. Donc comment toi t'as apporté ta vision du Languedoc sur cette région qui était un peu plus établie dans des façons un peu plus conventionnelles?
Alors c'est vrai que dans le Languedoc, c'est plus facile de raisonner les traitements. C'est le climat. Hein. On a un climat qui est quand même...
Il pleut beaucoup moins ici.
Il pleut beaucoup moins. C'est quand même au niveau des attaques fongiques. Enfin, à part l'année dernière où on a eu une attaque de mildiou sans précédent, c'était juste l'horreur. Mais normalement, voilà, c'est quand même plus facile de raisonner avec un climat méditerranéen que le climat bordelais. Voilà. Mais après...
Même constat en Champagne.
Oui, même constat en Champagne. Ouais.
Mais ça reste possible.
Ça
en
reste
Champagne,
possible.
Il y a des gens qui font du bio,
oui,
à Bordeaux, il y a des gens qui font
tout
du bio.
Est possible, voilà, tout est possible. Après, ça, il y a une prise de risque, voilà, mais évidemment, tout est possible. Ouais. C'est vrai que moi, en arrivant à Bordeaux, déjà, c'est voilà, moi, il a fallu que je m'habitue aussi à cette pression fongique. En fait, j'étais expert vigne, moi, sur le vignoble du Bordelais. Et donc, je faisais pas mal de comptages de ces pressions. Voilà, j'avais jamais vu autant de mildiou de ma vie. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a été aussi des discussions très intéressantes pour raisonner les traitements.
Parce que ça donne pas l'impression que du coup ici c'est plus facile, hein, le soleil est plus clément, le temps est plus clément et tout est un petit peu plus adapté à la vigne, même si on est un petit chouillon en dessous du 45e parallèle, que c'est tellement plus naturel pour la vigne d'être installée ici que sur les autres régions. C'est pour revenir un petit peu à l'historique, on en a parlé. On a parlé de l'époque des moines, on a parlé aussi d'avant des Romains. C'est vraiment un peu, pour la France, un des berceaux naturels de la vigne.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est aussi pour ça que l'effort qualitatif dans le Languedoc, je pense qu'on l'a fait un peu plus tard que dans le Bordelais. Parce que c'était facile, en fait. Donc, quand c'est facile, peut-être on se pose moins de questions. Voilà, on réfléchit peut-être un peu moins. Voilà, il faisait beau, la vigne poussait. Donc, on avait des gros rendements.
On a fait 50% de moins en Depuis
les années 70.
Aujourd'hui, on est passé à moins 50%
voilà.
de production.
Donc, il y a eu une superbe révolution qualitative, une remise en question dans le Languedoc, voilà, qui s'est fait dans les années 70-90. Où on a arraché, par exemple, le Carignan Noir, c'est un cépage que je trouve sublime, qui est magnifique et qui, à Fitou, nous fait rêver. Mais quand il est planté dans les plaines de l'Hérault, il n'arrive pas à mûrir, les tanins sont juste insupportables.
Il fait du jus, quoi.
Voilà. Et donc, c'est vrai que ce travail-là, ça a été planter les bons cépages sur les bons sols, voilà, réduire les rendements. Donc, il y a eu vraiment ce beau travail.
Qui est un travail collectif, en plus. Hein. C'est ce qu'on a compris aussi en partageant avec André Lénard. C'est toute une génération de vignerons et vigneronnes à une certaine époque, entre les années 80 et 90, début des années 2000, voilà, qui vont dans le même sens, qui cherchent à faire des beaux vins et à optimiser le rapport terroir-cépage.
Voilà. Alors, puis, il y a une complexité par rapport à la quantité de cépages qui sont autorisés. C'est un petit peu... qu'est-ce que je vais mettre là? Parce que le sol, il est comme ça, le climat, il est comme ça. Et dans la variété de cépages autorisés, lequel je vais utiliser? Parce que on a dit Bordeaux, par exemple, il y en a trois principaux. Là, il y en a 20, donc je prends ceux qui sont un peu plus de Rhône, un petit peu
des
plus
cépages,
du sud.
Cépages dominants. Toi, par exemple, c'est assez original de faire une pure Syrah ici. C'est plutôt un truc de Rhône Nord.
Oui, c'est vrai, ouais.
Après, ce qui est bien dans l'air du temps, c'est que je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient rentrer dans les AOC à un moment donné parce qu'on ne vivait que par les AOC. Depuis 5-10 ans, comme on fait des vins d'auteur, les vins IGP sont vendable, on va dire ça comme ça, et connu par
sur
par
la
le
signature d'un vigneron.
Et donc on a un peu moins, au-delà du fait qu'on ait une volonté de faire des vins d'auteur, vers la biodynamie, on est un peu moins bloqué, je pense, intellectuellement, à se dire, faut absolument que je rentre dans le cahier des charges de l'AOC, sinon ça va pas se vendre. Je pense que la libéralisation, mais tant mieux, la libéralisation fait que du coup on a beaucoup plus de variétés, on peut...
Avec cette histoire de découverte, on va chez le caviste et qu'on dit faites-moi découvrir quelque chose du Languedoc et on n'a pas une appréhension avec veux à tout prix une AOC.
Ce qui fait qu'hier on a goûté un monocépage Cabernet Sauvignon fait par Weiss qui est quelqu'un en terrasse du Larzac et c'était juste sublime. Je pense que la libéralisation IGP et le fait que ce soit accessible et on se dit maintenant on n'est pas obligé d'entrer dans la AOC fait que ça libère
les chakras
de création
c'est vrai que le Languedoc c'est un fabuleux terrain de jeu. Voilà, parce qu'on a vraiment des terroirs différents et une palette de cépages hallucinante. Et c'est vrai que moi j'aime bien jouer, j'ai aussi une cuvée qui est un 100% Pinot Noir.
Que j'adore.
C'est le chouchou de Patricia.
Pinot noir, movie star.
Voilà, et c'est vrai que ça nous permet. Alors après, ça sera pas des équilibres comme on peut retrouver en Bourgogne. Il n'y a pas d'élevage barrique. Moi, je reste en cuve, mais vraiment, ça permet de, au niveau créatif, c'est juste superbe. Ouais.
Ben, on a envie de le goûter celui-là, hein, Pinot noir, languedocien.
Non, c'est tout pour moi.
Et alors, c'est une chanson de Bachung aussi. C'est quoi le nom du Pinot?
Non, c'est juste Pinot Noir pour le coup.
C'est son nom, Pinot Noir.
Voilà, c'est son nom.
Ouais. Le nom du cépage se suffit lui-même.
Oui.
On arrive au bout de cette émission. J'ai juste envie qu'on dise un mot de la journée Women Do Wine qui se prépare le 23 juin. On a la chance d'avoir trois filles du vin ici. Toi, Audrey, tu animes une table ronde le 23 juin, donc à Paris, à la Bellevilloise. C'est un événement quand même, cette histoire. Ça sera la première journée organisée par des femmes du vin.
Et ça va être assez grandiose quand même sur ce qui a l'air de se préparer. C'est, on va un peu pousser les murs de la Belle Bulboise pour essayer de présenter tout le monde et de se faire connaître un petit peu, parce que c'est pas qu'on n'existe pas, c'est juste qu'on est moins connu.
Oui, moi je suis très heureuse et très excitée de cette rencontre, hein, parce que ça va aussi permettre de mettre des visages sur des comptes Twitter ou voilà. Là, je pense qu'il y aura aussi pas mal d'hommes qui vont venir. Voilà, donc je suis vraiment excitée de faire toutes ces rencontres et de parler des femmes du vin, de les mettre en avant. Voilà, ça va être super, j'ai hâte.
On sera là aussi, on a prévu de faire, ce sera sans doute notre dernière émission de l'année qu'on enregistrera à la Bellevilloise. Lors de la journée des rencontres, la première rencontre Women Do Wine.
Pour rappel, le 23 juin.
Le 23 juin à la Bellevilloise.
À Paris.
Paris 19e. Je crois que c'est le 19e ou le 20e.
Ouais, du 19e.
C'est le nord. Je crois que c'est 20e. Hein.
20e. Ouais,
pour ceux qui ne sont pas de Paris, c'est en haut à droite sur la carte de Paris.
Merci infiniment à vous, à toi Audrey Martinez, à toi Patricia Lucek. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci
à vous,
Patricia.
Bienvenue jusqu'ici.
Particulièrement.
Avec grand plaisir.
Bah écoute, c'était un plaisir, hein, nous aussi. Hein. On en profite pour passer un petit week-end, déguster quelques vins du Languedoc. C'est la thématique. Hein.
On n'a fait que Languedoc.
Interdit, que du Languedoc. Merci au Trinque Fougas et à Mathieu Boudet en particulier qui a permis cet enregistrement ici dans ce lieu sublime dans lequel on va manger, hein, dans la suite. On va continuer, on va finir les bouteilles qu'on a ouvertes. On a à peine trempé les lèvres. On va continuer. Merci à vous tous, Patrice, Florence, Maxime. Voilà, d'avoir participé à ce 50e épisode, c'est pas rien quand même, 50 épisodes en 2 ans. On prépare pas mal de choses pour la fin d'année, donc il y a ce live Women Do Wine, peut-être un autre enregistrement. On prépare aussi des choses pour l'année prochaine, on vous en dira plus prochainement. Pour être au courant, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur ces réseaux. Évidemment, suivez Patricia Lee Korn et La Wineista qui sont aussi à notre table aujourd'hui. Nouveauté intersidérale, il y a un site web, laterraboire.com, messieurs dames. Mais si,
amazing. Amazing. Oh.
C'est incroyable, amazing. Bon, c'est fait avec des petits moyens, mais l'idée c'est d'avoir quelques jolies photos de Mathieu Bouillet, notre photographe attitré, et puis surtout des liens vers tous les épisodes de La Terre à Boire, et puis j'espère plus de choses à l'avenir. On se retrouve tous le 23 juin 2019. Maxime, on te retrouve toi dans un prochain épisode de Tire-Bouchon, je crois que tu en as publié un ce matin.
Donc, j'en ai publié un hier. Et puis le dernier de la saison, il est déjà enregistré,
voilà.
Et c'est un truc super cool à Bandol, où on est allé tous les deux avec Julien.
À Bandol.
Je vous invite à l'écouter quand il sortira fin juin. Voilà.
Mais on écoute toujours en tire-bouchant et on embrasse Julien au passage.
Il voulait venir, mais il est fatigué. Il est en pleine période des abricots, là. Il est rincé, il a des courbatures de partout. Donc,
ah, le pauvre.
Il n'a pas réussi à se lever.
C'est vrai qu'il fait pas le peu cher. C'est important. À force de baruler dans les vignes.
C'est ça.
C'est ça. C'est vrai qu'il ne fait pas que du vin, il fait aussi les fruitiers. Merci beaucoup et puis on se retrouve très vite.
À bientôt, c'est clair.
À bientôt.
Et gros bisous. Salut.